Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Nelly Dali.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Présidentielle 2025, Awado Mello, candidat déclaré, multiplie les rencontres avec les acteurs politiques pour un rapprochement de la gauche ivoirienne. On en saura plus dans quelques instants. Nous irons à l'ouest du pays, précisément à Mans, où une opération ville propre a été initiée pour améliorer le cadre de vie des populations. Hors de chez nous en Israël, Benjamin Netanyahou dévoile un plan stratégique pour Gaza. Le professeur Bomba Abdoulaye, spécialiste des relations internationales, décryptera pour nous ce plan. Et en fin d'édition, nous recevrons comme invité le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouao. Il appelle les acteurs politiques à garantir un scrutin démocratique le 25 octobre prochain. À quelques mois des élections, Awado Mello, candidat déclaré à la présidentielle, multiplie les rencontres avec des figures de la gauche ivoirienne. Il a rencontré vendredi dernier Simone Eyivé Gbagbo et Charles Blé Goudé. S'agit-il d'une simple coopération ou des prémices d'une véritable alliance politique? La réponse avec l'ex-secrétaire national technique du PPACI, en charge de la communication, démis de ses fonctions désormais proches de Awado Mello, Fernand Aïli.
L'objectif essentiel de ce rapprochement-là, c'est l'unicité de la gauche. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est une alliance entre les acteurs. Le ministre Awado Mello, il est toujours membre du PPACI. C'est vrai qu'il a été déchargé de ses fonctions, il est militant de base, mais ce rapprochement entre ces acteurs-là, c'est un rapprochement entre des acteurs de gauche.
Alors justement, vous dites qu'il est membre toujours du PPACI. On a vu que le Front commun a organisé une marche le samedi 9 août. Pourquoi est-ce que M. Awado Mello ne s'est pas associé à cette marche?
Cette marche-là était pour des acteurs là, du PPACI, du PDCI, de protester contre le quatrième mandat de M. Alassane Ouattara, de protester aussi contre l'exclusion de leur leader, le président Lewawe, le président Tidiane Thiam. Certes, il n'y était pas, mais il a apporté son soutien à cette marche. Dans l'esprit de gauche, il y était pour cette marche.
Quand M. Awado Mello rencontre Simone Eyivé Gbagbo, il rencontre également Charles Blé Goudé. Est-ce que déjà on peut parler de négociations pour un possible soutien unique à un candidat?
À long terme, sinon ce n'est pas écarté. En ce moment, nous sommes à l'étape de parrainage. Le ministre Awado Mello est un candidat déclaré. Mme Simone Eyivé Gbagbo est une candidate déclarée. Et tous les candidats déclarés sont en ce moment dans la coulée des parrainages et ils vont déposer leur dossier de candidature.
C'était Fernand Aïlé, ex-secrétaire national technique du PPACI, en charge de la communication, démis de ses fonctions désormais proches de Awado Mello, que nous avons joint. Après la scène politique, intéressons-nous à une initiative locale qui met en lumière les artisans de la paix et de la cohésion sociale à Adzopé. La cellule civilo-militaire de la région a organisé une cérémonie de remise de distinction aux meilleurs artisans de paix et de cohésion sociale du département. C'était vendredi dernier à la préfecture de région pour honorer des personnes incarnant les valeurs de paix et de vivre ensemble. Éloge Kouao, notre correspondant, nous en parle.
Autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières et la population étaient présents pour marquer leur attachement à la paix et au vivre ensemble. Monsieur Assiadopo Bruno, président de la cellule civilo-militaire, veut incarner des valeurs de paix à travers cette distinction de plusieurs personnalités.
Les lauréats que nous célébrons aujourd'hui sont les bâtisseurs de cette paix, les artisans de la réconciliation et des ambassadeurs de l'espoir. Merci infiniment pour le travail acharné que vous abattez tout le temps.
Florence Achi, maire d'Adzopé, également récipiendaire, a remercié l'organisateur et invité la jeunesse à être des artisans de paix.
Cette belle initiative vient à point nommé pour rappeler l'importance de rester unis, vigilants et engagés pour la paix. Les jeunes, il faudrait que vous soyez des ambassadeurs de paix.
Le préfet d'Adzopé a invité les récipiendaires à être des artisans de paix pour des élections à venir sans eux.
Un défi nous est lancé. Faire en sorte que le samedi 25 octobre prochain, l'élection présidentielle se déroule dans la paix, dans l'entente, dans l'union.
Cette cérémonie marque le rôle important joué par la cellule civilo-militaire d'Adzopé dans la consolidation du tissu social et le maintien de la paix. Éloge Kouao, Adzopé pour Radio de la Paix.
Et toujours dans la dynamique d'améliorer le bien-être des populations, rendons-nous à l'ouest dans la région du Tonkoui, où la municipalité de Mans se mobilise pour la santé publique. Elle a initié une opération de grand nettoyage des quartiers de la ville en cette période de forte pluie afin d'assainir le cadre de vie. Cette activité dénommée Mans Ville Propre a vu la présence du corps préfectoral et la direction régionale de la salubrité et de l'assainissement du Tonkoui. On en sait plus avec Stéphane Adams, notre correspondant régional.
C'est le quatrième adjoint au maire de la commune de Mans en charge de la question de la salubrité qui a indiqué l'importance d'une telle opération pour la municipalité. Fofana Yakaldja.
La mairie est très engagée pour la cause de la propriété. Vous êtes sans ignorer que nous sommes la seule municipalité qui a investi beaucoup d'argent afin de donner à Mans son lieu d'attente en matière de propriété. Je voulais aussi profiter de votre antenne pour lancer encore cet appel à toute la population pour que chacune et chacun d'entre nous puissions s'inscrire dans cette mouvance de propriété. C'est vraiment une bonne action.
Une bonne action qui rime avec des gestes simples définis ici par le secrétaire général 1 de la préfecture de Mans, Stéphane Guiriga.
Vous savez très bien que Mans est une attraction touristique que nous avons le devoir de préserver par des gestes simples de propriété. Ne serait-ce qu'en nettoyant devant chez soi, en évitant de jeter des ordures dans les caniveaux, en évitant tout ce qu'il y a comme dépôt anarchique d'ordures. Ce sont ces gestes simples-là susceptibles d'accroître notre développement économique.
Présente à cette activité, la directrice régionale de la salubrité et de l'assainissement du Tonkoui, Madame Assamoah Jacqueline, a rappelé ceci aux populations.
Nous avons sensibilisé, nous sommes à la phase répressive, on a nos carnets de contravention. Ça varie de 100 000 à 10 millions de francs CFA, 100 millions même de francs CFA, à la lumière des textes réglementaires, le code de l'hygiène et de la salubrité.
La mairie de Mans entend poursuivre cette action d'assainissement pour le mieux-être des populations. Stéphane Adams, Radio de la Paix.
De l'hygiène publique à la protection sociale, intéressons-nous maintenant à une campagne nationale visant à élargir la couverture maladie universelle. Le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales a procédé le week-end dernier à Boaké au lancement de la caravane Zéro Cotisation CEMU. Maître Camara a annoncé que plus de 20 millions de personnes ont été enrôlées dans le cadre de cette couverture sociale. On en sait un peu plus avec Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Boaké.
L'étape franchie de plus de 20 millions de personnes enrôlées dans le cadre de la couverture maladie universelle CEMU a une signification profonde, révèle le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara.
Un engagement politique fort, celui de garantir à chaque citoyen, sans distinction de revenus et de statut, un accès équitable aux soins de santé ainsi qu'aux médicaments. C'est une victoire de la solidarité sur l'exclusion, une victoire de la justice sociale sur les inégalités. Cette avancée significative, nous la devons à la vision du chef de l'État, pour qui la santé ne doit jamais être un luxe.
Le ministre Adama Camara annonce que la mesure exceptionnelle d'ouverture temporaire, sans cotisation, allant du 1er mai au 31 août, décidée par le chef de l'État, fait déjà effet.
Le nombre d'assurés traités par semaine et le nombre d'actes médicaux délivrés par semaine au titre de la couverture maladie universelle ont plus que quadruplé, passant respectivement d'environ 6 000 assurés traités par semaine à 28 000 assurés traités par semaine.
Une bénéficiaire de cette mesure loue la portée sociale de cette décision.
C'est un symbole fort, celui d'un pays qui avance.
Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale promet que les campagnes de sensibilisation dans le cadre de l'enrôlement à la CEMU seront davantage corsées. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Et dans le domaine de la santé, la 15e journée mondiale de lutte contre les hépatites virales a permis de dépister plus de 1000 personnes contre les hépatites virales. Cette journée, observée le 30 juillet dernier, a été l'occasion pour le professeur Ala Kouadio Emile, directeur coordonnateur du programme national, de sensibiliser le public sur les voies de transmission et les moyens de prévention. Le point avec notre correspondant régional Abel César Kassa.
Trois points de dépistage gratuit des hépatites virales ont été aménagés respectivement au centre hospitalier régional, à la PMI protection maternelle et infantile du quartier Vatican et dans la cour de la mairie, lieu officiel de la célébration. Le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre ces maladies, le professeur Ala Kouadio Emile, en dit plus sur les différentes formes.
Ce sont des virus qui vont infecter le foie, c'est pour ça qu'on dit hépatite virale, provoquée par 5 virus. dont deux se transmettent à partir des selles des patients et trois autres à partir du sang, des rapports sexuels non protégés, la salive et la transmission mère-enfant. Les hépatites A et E sont des hépatites qui vont sévir là où il y a l'insalubrité.
Le professeur Allah insiste sur la gravité de deux de ces hépatites.
En Côte d'Ivoire, la prévalence de l'hépatite B est de 6% et celle de l'hépatite C est d'environ 3%. Ce sont des maladies chroniques silencieuses qui malheureusement peuvent évoluer vers la cirrhose et le cancer primitif du foie, qui sont des affections graves et mortelles. Nous disons aux populations de ne pas attendre d'être malades. Il faut qu'elles viennent massivement se faire dépister et si jamais elles sont porteuses de la maladie, il existe des possibilités de prise en charge.
Plus d'un millier de personnes ont été dépistées et une cinquantaine vaccinées gratuitement au cours de cette journée présidée par le préfet des régions Rombléon Célestin, qui représentait le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Divo Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Quittons la Côte d'Ivoire pour le Burkina Faso, où la justice a tranché dans plusieurs affaires de terrorisme. 13 personnes ont été condamnées à la prison à perpétuité. Parmi ces affaires figure la double attaque du 2 mars 2018 contre l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou, qui avait fait 8 morts et 85 blessés. Malgré ces condamnations, le pays reste en proie à des violences djihadistes récurrentes, avec plus de 26 000 morts depuis 2015, selon l'ONG Accolade. Autre actualité internationale au Moyen-Orient cette fois, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dévoilé ce week-end un plan d'occupation de Gaza, un document qui fixe 5 objectifs majeurs. Selon certains observateurs, ce plan pourrait changer la gouvernance palestinienne aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie. Pour en savoir plus, écoutons le spécialiste des relations internationales, professeur Bamba Abdoulaye.
L'objectif principal, selon Benjamin Netanyahou, c'est le désarmement du Hamas, c'est d'assurer la sécurité d'Israël en désarmant totalement le Hamas.
Selon vous, est-ce que ce plan d'occupation peut réellement stabiliser la situation à Gaza?
Non, pas du tout. Ça va d'abord envenimer la situation. Le Hamas n'est pas une armée constituée de façon officielle. Donc du coup, quelle que soit la stratégie militaire que vous allez adopter contre des groupes armés ou des bandes armées, ça fait 22 mois que ça dure et c'est pas fini. Donc la solution militaire aujourd'hui, jusqu'au boutisme militaire, n'est plus la solution parce que le Hamas est affaibli. Pour que le Hamas renaisse de ses cendres, il faut énormément d'années. Donc on va dire que ce point, Israël a une très grande longueur d'avance sur le Hamas. Ça devait être pour Israël l'opportunité donc de poser les bases de cette future cohabitation. Peut-être qu'il y a des conditions pour l'instant assez contraignantes, mais cesser la guerre et envisager dans cette cohabitation pacifique. Mais apparemment, ce n'est pas cette voie que Netanyahou a choisie. Malgré les cris de cœur, malgré les interpellations de la communauté internationale, de la Ligue arabe, de ses voisins, pour une solution pacifique.
Professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste des relations internationales, que nous avons joint. Et pour refermer cette édition, place à notre invité du jour, le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouao. Il appelle les acteurs politiques à tout mettre en œuvre pour que la présidentielle du 25 octobre soit réellement démocratique, soulignant leur responsabilité en la matière. Geoffroy Julien Kouao répond à cet effet aux questions de Francis Cassi.
Geoffroy Julien Kouao, bonjour.
Bonjour Francis Cassi.
Alors, la marche de l'opposition Front commun PDCI, PPACI, qui avait été annulée et puis reportée au 9 août, a eu enfin lieu dans la forme. Qu'est-ce que vous retenez?
Je retiens d'abord que ce fut d'abord un succès politique et ensuite sécuritaire. Sur le plan politique, le Front commun a réussi de Paris la mobilisation. Cette manifestation a tourné à une véritable démonstration de force. Il reste maintenant à transformer ce succès populaire en une victoire électorale. Deuxièmement, c'est la sécurité. Tout le monde craignait qu'il y ait des débordements. Tout s'est bien passé. Nonobstant le nombre élevé de manifestants, il n'y a pas eu de grabuge, pas de blessés. Et là, c'est un véritable défi de sécurité qui a été relevé. Il faut aussi saluer également les forces de l'ordre qui ont joué un rôle important. Mais c'est aussi dû au fait que l'opposition l'a dit, elle affirme que toutes ces manifestations seront des manifestations pacifiques. Et c'est ce à quoi nous avons assisté. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, nous avons énormément de caméras dans les rues. Tout ça aussi est persuasif.
Dites-nous, dans la forme, vous venez de dire que ça a été une démonstration de force, les gens étaient nombreux, mais dans le fond, leur message, ils insistent sur un dialogue ouvert entre opposition et pouvoir. Est-ce que vous pensez que cela est possible?
Nous sommes en politique. La politique repose sur le rapport de force. Et le PPACI annonce une autre manifestation pour le samedi prochain. Donc tout va dépendre de la dynamique politique. Si le PPACI et le PDCI-RDA arrivent à mobiliser assez de monde dans les rues, s'il n'y a pas de dialogue politique pour permettre la réinscription de M. Laurent Gbagbo et de M. Tidiane Thiam sur la liste électorale, ce qui enlève à l'élection d'octobre 2025 toute sa légitimité.
Alors, les opposants ont également parlé de persécution judiciaire qui, selon eux, battrait sur l'opposition.
Non, c'est un constat qu'ils font à partir de faits. D'abord, les incidents qui ont eu lieu à Yopougon. Et évidemment, c'est dans ce cadre-là que les autorités judiciaires et policières ont interpellé les uns et les autres pour nécessité d'enquête. Et ce qu'il faut noter, c'est que à 3 mois de l'élection, ces choses sont à déplorer. Je reste totalement sceptique quant à une élection pacifique et inclusive.
Alors, vous êtes sceptique quant à une élection pacifique et inclusive. Dans ce cas, la responsabilité est beaucoup plus du côté de qui?
Le mal est profond. C'est que pour construire une démocratie, pour des démocrates, est-ce que nos acteurs politiques sont véritablement des démocrates? Au moins, tout ceci relève de la responsabilité de tout le monde. Le silence des intellectuels, de la société civile, les médias également, qui ne jouent pas leur rôle dans le partage équitable des antennes aux uns et aux autres. Tout ça participe à créer des conditions non démocratiques d'une élection.
Oui, vous parlez de médias qui sont déséquilibrés, mais c'est pas Radio de la Paix, parce que nous, on donne la parole à tout le monde, n'est-ce pas?
Oui, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais dans tous les cas de figure, la grande responsabilité incombe avant tout aux acteurs politiques qui ne sont pas capables d'organiser un dialogue politique autour du processus électoral.
À cette manifestation du 9 août de l'opposition Front commun PDCI-PPACI, on a vu Pascal Afinguessan, Daniel Bonny-Clavry qui ne sont pas membres de cette coalition de l'opposition. Alors, est-ce à dire que cela est en train d'unir toute l'opposition?
Oh, je ne le crois pas. Vous savez, au sein de l'opposition, il y a beaucoup de divergences, beaucoup d'opportunisme et ils n'ont pas une stratégie commune.
Récemment, il y a eu une tournée des chefs et rois traditionnels du Côte d'Ivoire. À l'issue de cette tournée, est-ce que vous les avez entendus?
Bon, chacun fait ce qu'il peut. Est-ce que les conseils donnés par les chefs de village, les rois, les intellectuels, la société civile, aux acteurs politiques sont suivis? Je pense que le véritable problème, ce sont les acteurs politiques. Il faut qu'ils comprennent que la politique, c'est le dialogue et la politique, c'est le compromis. Malheureusement, on a des positions totalement radicales qui ne permettent pas l'organisation d'élections pacifiques.
Alors, quand vous parlez de position radicale, ça vient d'où? De l'opposition ou du pouvoir?
Les deux. Le pouvoir ne veut pas de dialogue politique, alors que ce devait être une banalité dans une démocratie. Pour l'opposition, elle ne veut pas entendre parler de plan B.
On pourrait dire que ça, c'est aussi même de leur parti politique. Là, ça n'engage pas trop l'avenir même du pays, mais opposition et pouvoir qui doivent dialoguer, ça s'engage l'avenir du pays.
Oui, mais lorsque l'opposition dit qu'elle n'a pas de plan B, un parti comme le PPACI et le PDCI, si ces deux grands partis de l'opposition ne participent pas à ces élections, quelle est la légitimité de cette élection?
Oui, mais parlant de plan B au PDCI, au PPACI, ces partis clament eux fort qu'ils ont déjà choisi leur candidat et que ce que l'opinion voit comme plan B, plan C, serait une instrumentalisation du parti au pouvoir.
Oui, c'est leur position que tout le monde connaît, mais en politique, il faut faire preuve de flexibilité. Parce que si le pouvoir de son côté ne fait pas preuve de flexibilité et qu'il n'y a pas de dialogue politique, il n'y a pas de réinscription sur la liste électorale, ça va impacter négativement le déroulement de l'élection.
Geoffroy Julien Kouaou, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, M. Francis Kassou.
C'est la fin de cette édition, le rappel de l'essentiel. Présidentielle 2025, Awadon Mello multiplie les rencontres avec les acteurs politiques pour un rapprochement de la gauche ivoirienne. À l'ouest du pays, précisément dans le Tonkwi, une opération Manville Propre a été initiée pour améliorer le cadre de vie des populations. Et puis hors de chez nous, en Israël, Benjamin Netanyahou a dévoilé un plan stratégique pour Gaza. Professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste des relations internationales, a décrypté pour nous ce plan. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 15h pour une autre édition de l'information. Mais avant, la revue de presse des journaux avec Jean-Mylène Bitti.
Bonjour à tous.